Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme d'habitude avec moi-même et Charles Gave ici présent. La semaine dernière, nous vous parlions de Zucman, de l'histoire de 200 milliards d'aides aux entreprises, etc.
Attendez, Zucman, j'aimerais dire quelque chose. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui disent que j'ai dit que Zucman manipulait ses chiffres, comme le faisait fait son patron d'ailleurs, Piketty et tout. Et tout le monde m'a dit, mais c'est pas vrai du tout. Il a été refusé à Harvard parce qu'il était trop de gauche. Alors, je vais vous expliquer. Quand dans une université, vous êtes refusé après avoir fait des travaux scientifiques, et qu'on vous dit que vous êtes trop de gauche, ça veut dire en termes clairs que vous avez manipulé les chiffres pour essayer de montrer des choses que vous n'arrivez pas à montrer sans ça. Parce que, à Harvard, refuser un type qui aurait fait du travail sérieux parce qu'il était de gauche, vous rigolez ou quoi, quoi. Il n'y a pas plus à gauche qu'à Harvard, quoi. Donc,
Tout à fait.
faut pas, il y a le langage diplomatique et la réalité. Le langage diplomatique, c'est on l'a refusé parce qu'il était trop de gauche. La réalité, c'est parce qu'il manipulait ses chiffres. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait eu la question avait été posée. Je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Elizabeth Warren qui voulait mettre en place une taxe sur le capital. Donc une taxe un peu similaire à l'idée du truc Zucman. Et il y avait une étude qui s'était penchée sur l'opinion de la plupart des économistes qui travaillaient aux États-Unis sur la question. Et ils étaient très 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 minoritaires, contrairement à en France, à être favorables à ce type de taxe, avec plusieurs raisons, dont nous avons parlé d'ailleurs la semaine dernière. Et justement, c'est un des comparses de Zucman qui était favorable. Enfin, on voyait que c'était très très minoritaire. Donc dans le paysage, effectivement, il était considéré comme trop politisé. Là où en France, on a l'impression que tous les économistes sont des Zucman ou comment dire, des
Ben, pour une
Piketty.
raison simple, si vous voulez, c'est que, qu'on le veuille ou non, en France, c'est toujours ce que je dis, si vous voulez, moi. Il y a ceux qui sont professeurs de tennis et il y a ceux qui sont professionnels de tennis. C'est-à-dire, les
Oui,
professionnels de
c'est pas
tennis,
les mêmes, oui.
ils gagnent des prix et c'est avec ça qu'ils vivent. Les professeurs de tennis, ils donnent des leçons à la fille du notaire et ils se cassent pas trop la nénette. Donc, il y a une différence essentielle entre professeur d'économie et économiste. Moi, ça fait quand même 50, 60 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais été payé que par des gens qui me payaient volontairement. C'est pas la même
C'est vrai.
chose que d'être professeur d'économie et de toucher son chèque en disant qu'il n'est pas assez gros et donc il faut que l'État vous paye plus. Et
Effectivement.
donc, un économiste, si vous voulez, qui est payé par l'État, s'il était honnête intellectuellement, il ne parlerait jamais de la répartition de l'argent parce que lui, il est payé par l'État, donc il n'est pas neutre. Voilà, je voulais faire ce truc en disant, faut pas confondre les types qui vont chasser et les types qui vont acheter leur viande chez le boucher, quoi.
Qui font des cours de. Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous voudrions parler de la démographie, parce que ces dernières années, que ce soit, enfin, en fait, dans le dernier siècle, hein, globalement, il y a beaucoup de productions culturelles et même intellectuelles qui se sont penchées sur l'idée selon laquelle bah, on allait sans doute être beaucoup trop nombreux sur Terre, que ça allait être un massacre. C'est pas une idée nouvelle, hein. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Malthus, qui a développé cette idée au début du 19e siècle.
Qui était un pasteur.
Voilà, qui était un
Ce qui
pasteur.
pour un pasteur est extraordinaire, parce qu'en principe, si vous croyez en Dieu, en particulier au Dieu chrétien, il est tout à fait évident qu'il ne va pas vous mettre sur terre s'il n'y a pas de quoi vous faire vivre. Donc, le malthusianisme, c'est-à-dire il y a trop de monde sur terre, est une idée profondément antichrétienne, puisque le Christ nous a dit croissez et multipliez. Donc, c'était un âne, mais surtout, il n'a pas compris l'infinie ressource de l'intelligence humaine.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est-à-dire qu'il développe un postulat. Alors, il dit, en gros, son postulat de base, c'est dire que la population croît de manière exponentielle, tandis que la nourriture, en fait, la quantité de ressources, croît de manière linéaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à faire plus de tomates quand on est 1 milliard que quand on est 200 millions, sauf que ça croît de manière linéaire alors que la population, elle, croît de manière exponentielle. Voilà. Et c'est un postulat qui est bah, tout simplement faux. En fait, c'est tout
Dans les deux
simplement faux.
parties.
Voilà. C'est-à-dire que la population ne croît pas de manière exponentielle et la nourriture ne croît pas de manière linéaire.
Mais il y
Donc,
a eu des progrès, il y a eu une espèce d'explosion de la productivité agricole
voilà.
qui fait qu'aujourd'hui, il y a des surplus agricoles un peu partout dans le monde, quoi. Donc, alors qu'on est quasiment 8 milliards.
Et au moment où il en parle, plus de la moitié de la population est, dans la paysannerie. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est même pas 3% de la population. En tout cas, dans les économies développées, en France, en Allemagne, etc. Et on a quand même beaucoup plus de nourriture et on mange beaucoup mieux en termes de quantité, en tout cas, que à l'époque de Malthus. Et pourtant, nous avions tout juste dépassé seulement le milliard d'individus sur la planète. Et 200 ans plus tard, nous sommes à 8 fois plus, puisque nous sommes aujourd'hui à 8,1, je crois, milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est une idée qui est pas nouvelle, et à peu près personne ne s'en revendique directement, mais en tout cas, elle persiste malgré tout.
Elle persiste, mais vous avez toute une série de puissants génies comme Bill Gates, etc., qui trouvent qu'il y a trop de monde sur la Terre, qu'il faudrait ramener la population à 500 millions. Et donc, c'est du grand n'importe quoi, mais ça fait rien, c'est une idée... qui est assez partagé chez les riches.
Oui, chez les riches, ouais.
Ils trouvent qu'il y a trop de monde qui visite l'acropole, que ce serait mieux s'il y avait moins de touristes, que ce serait mieux s'il y avait moins de... Donc, si vous voulez, les riches trouvent que... dans le fond, ils n'en ont pas besoin des pauvres. Quoi.
Enfin, pas tellement les riches, mais peut-être une minorité de milliardaires.
Voilà.
Parce que par exemple, typiquement, Musk, lui, il est absolument
il fait
pas
des
du
enfants
tout...
avec toutes les femmes. Alors déjà, il en fait un enfant.
Il fait des enfants, à mon avis, il a plus d'enfants que ce qu'il ne sait, déjà. Premièrement, il a, je ne sais pas combien de gonzesses il a fécondé, enfin, il y en a au moins 4.
Il en a eu, avec sa première femme, il en a eu 5 ou 6, je crois, puis après ça, il a été plus généreux. Quoi.
Voilà, à droite à gauche. Il a distribué le, voilà. Après, je crois que les femmes qui étaient concernées n'étaient pas contre. Hein. Elles se sont dit, bon, il a peut-être un bon patrimoine génétique quand même. Il en a
et
un peu sous la caboche.
En plus, il a de quoi m'entretenir pour les années qui viennent.
Voilà,
ainsi que
effectivement.
Le petit qui arrive, quoi.
C'est sûr que oui, ça lui ferait pas grand chose de distribuer peut-être 10 millions de dollars pour
chaque enfant.
Pour lui, ce serait pas grand chose. Alors que pour ces enfants-là, ce serait.
Mais ça vient d'un vieux proverbe, si vous voulez. C'est qu'autrefois, quand j'étais jeune, on disait le lit de la misère est toujours fécond. Et donc, les croissances démographiques fortes arrivaient toujours dans les pays vraiment pauvres. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de pays qui sont pauvres. Et donc, le lit de la misère, il continue à. Être fécond, mais qu'il y en a de moins en moins qui sont miséreux, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, strictement, dans tous les pays du monde, on observe un effondrement tendanciel de la démographie. Enfin, pas de la démographie, mais de la fertilité. Et du coup,
à fertilité des femmes.
Voilà,
qui doit être à deux ou supérieur à deux, parce que je sais bien que c'est pas une bonne idée, mais elles doivent nous remplacer, nous aussi, les mecs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elles doivent non seulement se remplacer, c'est-à-dire avoir un enfant, mais elles doivent en avoir deux pour essayer que remplacer le mec aussi. Mmh. Et je sais bien que ça leur fait pas plaisir, mais
il
faut quand même.
Non, mais c'est effectivement le taux de renouvellement. Alors il est pas strict, il est pas fixe, mais on va dire c'est entre 2,15 et 2,3 enfants par femme, quoi. En gros, on est sur un bon taux de renouvellement.
Parce que les garçons ont une tendance tout à fait remarquable à se tuer.
Ouais, tout à fait.
Le taux de mortalité chez les garçons, mais je sais bien que les garçons et les filles c'est pareil, je suis confus, mais les garçons se tuent beaucoup plus que les filles. Quoi.
Oui, un peu plus, ouais, effectivement.
C'est pour ça que d'ailleurs, il y a plus de garçons qui naissent que de filles.
Oui, je crois que les hommes représentent 52% de l'humanité.
C'est ça, il y a 2% de mecs dont on sait qu'ils vont tomber des arbres. Faire n'importe quel code.
Ouais, et puis il y a aussi des politiques. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore en vigueur aujourd'hui, mais culturellement, par exemple en Chine, il y a quelques décennies, il faisait pas bon naître.
Non, mais en Inde aussi,
quoi.
C'est un gros problème, c'est que comme l'avortement est maintenant possible et qu'on connaît le sexe du bébé, très souvent, si vous voulez, on avorte les filles, quoi.
Ouais. Et donc cette idée, elle est toujours pas vraiment enterrée, c'est-à-dire qu'il y a encore des productions culturelles récemment qui parlent de ce problème-là, de la surpopulation. Il y a pas longtemps, je regardais un film que je vous ne conseille pas d'ailleurs, qui était pas très bon, avec Tom Hanks. C'est Inferno, qui fait partie de la trilogie à la base du Da Vinci Code. Et dans ce truc-là, dans ce film-là, le grand méchant, c'est un type qui veut éliminer toute une partie de la planète avec un virus ultra mortel parce
Tiens
que
donc.
Ouais, parce que bientôt on va être 10 milliards, puis 15 milliards, puis 20 milliards, puis 30 milliards, puis 100 milliards, puis machin, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Du coup, finalement, on fait une petite frappe préventive, c'est-à-dire que plutôt que de laisser l'humanité crever dans 100 ans, et ben on va la laisser crever maintenant. Voilà, je trouve que
on va la tuer maintenant,
c'est voilà, exactement, c'est une très très bonne idée. Et donc le film se base là-dessus, et c'est un film qui est pas si vieux que ça, parce qu'il a moins d'une dizaine d'années. Pour les plus jeunes qui nous regardent, ils connaissent peut-être le film Avengers Infinity War, dans lequel aussi le méchant a une espèce de gant qui a un super pouvoir, il peut faire absolument ce qu'il veut, et avec ce truc-là, cette arme absolue, il veut décider de réduire de 50% de manière totalement aléatoire la vie dans l'univers. Voilà. Donc,
dans l'univers.
Lui c'est l'univers entier. Lui, il a visité je sais pas combien de planètes. Partout il y a le même problème. Il y a trop de gens. Les gens ils font. Bref. Donc on réduit la population par deux et on repart sur des bonnes bases. Bref. Donc ce qui fait que
il y avait
tout
un film quand
j'étais
jeune aussi qui s'appelait Soleil Vert qui était aussi
oui,
une année.
Voilà exactement. Effectivement.
Soleil Vert c'était un navet.
Ouais, Soleil Vert de Harry Harrison. Ouais. Même Le meilleur des mondes de Huxley qui est pourtant plutôt un bon livre.
Le meilleur des mondes, c'était hier. On était en 45 là.
Ouais, c'était, oui, c'était il y a presque.
Il y avait
100 ans.
Ça croissait encore. Le taux de fertilité des femmes en France était à 2,6 ou 2,7. Ça allait bien là.
Tout à fait. Bah, là, pour le coup, on est à un moment de boom démographique. Mais
prenez
énorme.
Le train en France et allez vous balader, de Paris à Avignon là, quand même. C'est vide partout. Il y a personne. Il y a du monde à Paris et puis un peu à Lyon là au milieu. Mais c'est vide partout. La France est un pays qui est vide.
Qui se vide tout à fait, surtout en son centre.
Oui.
C'est-à-dire que les grandes villes ne se vident pas, mais...
La diagonale du vide, ouais. Là, ça y va. Hein.
Oui, c'est, ça se vide de plus en plus.
Celle qui part de Lille et qui se termine à Montpellier, vous savez, qui traverse le massif central, il n'y a personne.
Mmh. Effectivement, il n'y a pas grand monde. Et effectivement, il arrive par moment, je veux dire, de manière très momentanée et très circonstanciée, que la démographie grandisse un peu trop par rapport à l'accroissement de la productivité. Si on est sur un moment où on a vraiment 6 enfants par femme, du coup, il y a plein d'enfants, l'âge médian, c'est 19 ans, du coup, où personne ne travaille encore et
certains pays d'Afrique.
C'est encore un peu vrai au Nigeria, dans des pays comme ça où on est vraiment sur des très très grosses natalités, mais sinon tendanciellement à l'échelle du monde, ce n'est pas une réalité. Donc voilà, aujourd'hui, on est 8 fois plus qu'à l'époque de Malthus et on crève pas de faim. D'ailleurs, tendanciellement la faim dans le monde a tendance à se réduire.
Oui.
En fait, elle se maintient à peu près, sachant que comme la natalité, pardon, pas la natalité, mais la démographie mondiale augmente, si on reste au même point, c'est que...
Et en principe, j'avais fait une savante étude il y a des années, c'est que le seul pays où il y a eu des familles de 19e, c'est quand il y avait... au 20e, pardon, c'est quand il y avait socialiste dans la Constitution.
C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, cette idée malthusienne, en fait, au départ, c'était vraiment de volontairement réduire les naissances. Et puis, en fait, ça s'est mué un peu dans une espèce de défiance générale envers le progrès technique, envers la croissance, etc.
Et
on retrouve
envers
cette idée-là.
La vie elle-même.
Envers la vie elle-même, oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais en particulier en France, dans d'autres pays d'Europe, on a une espèce de dépression nerveuse collective. Et la vie, ça vaut pas la peine d'être vécu.
Ouais.
Pourquoi ils se flinguent pas, j'en sais rien. Et comme ça vaut pas la peine d'être vécu, ben on la transmet pas. Et c'est une drôle d'idée. Voilà,
tout à fait. C'est ce truc-là. Il y a notamment dans le courant écologiste où on retrouve les trucs de d'éco-anxiété où on se dit voilà, là, mais on est déjà beaucoup trop sur Terre. Je vais pas encore faire un enfant, donc on se prive soi-même.
Il sera malheureux et tout. Et pourquoi ils sont malheureux?
Voilà. Donc on se ligature les trompes pour les femmes ou alors on se fait une vasectomie pour les hommes. Enfin, et on le fait de manière totalement volontaire. Bref, donc c'est juste complètement dingue. On n'est pas...
C'est une forme de suicide.
C'est une forme de suicide, ouais. C'est un suicide générationnel.
Étonnant, c'est que moi, j'ai eu 4 enfants, j'ai 11 petits-enfants, donc je fais partie de la catégorie lapin.
Mm-hmm.
Mais chacun d'entre eux est un bonheur incroyable. Donc, si vous voulez, se priver de ce bonheur,
ouais.
C'est quand même bizarre.
Oui, non, mais il y en a qui le font, pas forcément parce qu'ils ne veulent pas d'enfants, ou alors ça peut être un prétexte, parce qu'au fond, ils veulent pas d'enfants, ou en tout cas, ils veulent pas cette responsabilité, parce que c'est un peu des adolescents, ils restent encore, ils sont adultes d'un point de vue légal, mais ils veulent rester un peu ados dans leur tête. Mais il y en a qui disent que c'est par responsabilité vis-à-vis du monde, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants, vous vous rendez compte, mais t'as un enfant, tu participes au problème, enfin bref, c'est le problème de la surpopulation, visiblement, qui, 200 ans plus tard, n'existe toujours pas, mais qui, dans leur tête, existe toujours.
Alors, ça risque de nous amener à un effondrement de la population qui
Ouais.
générera d'autres problèmes.
Tout à fait. Et alors, moi, en revanche, je ne suis pas un malthusien. Toutes les explications malthusiennes, en gros, ont globalement échoué. Alors, Malthus, il parlait de l'agriculture, de manière générale, dans ces années-là, au début du 19e siècle, mais il n'y a pas si longtemps encore, et encore un petit peu aujourd'hui, mais si on en parle moins, on parle aussi des dépenses d'énergie, le fait que bientôt il n'y aura plus de pétrole, etc. Et ça fait pareil, ça fait plus de 80 ans qu'on dit que dans 15 ans, il n'y aura plus de pétrole.
Non, mais moi j'ai connu ça en 73-74, si vous voulez, quand il y a eu la première grande crise de l'énergie où le prix du pétrole est
Ouais.
passé de 3 à 30. On consommait 50 millions de barils par jour, et il y en avait pour 10 ans. Aujourd'hui, on en consomme 104 millions de barils par jour, je crois, et il y en a toujours pour 10 ans. Donc il y a quand même, plus le prix du pétrole augmente, et dans le fond, plus on en a toujours pour 10 ans.
Ouais,
Mais Thomas Sowell a montré pourquoi c'était 10 ans, ce qui était assez marrant.
ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais effectivement, oui, j'ai vu la première étude apparemment qui disait qu'on allait manquer de pétrole, c'était au début des années 40 et disait qu'on allait en manquer au début des années 50. Voilà. Bon, aujourd'hui, on n'en manque toujours pas et on découvre encore tous les ans
Oui,
des
parce
nouveaux puits de
que si vous
pétrole.
voulez, ce que j'essaie d'expliquer très bien Sowell, que je vais essayer de reprendre maladroitement, parce que Sowell, c'est un génie, il dit simplement, si vous voulez, la quantité de pétrole disponible dans le monde à 30 dollars n'est pas la même que la quantité de pétrole disponible à 60.
Oui, c'est vrai.
Ou à 90 ou à 120.
Ouais.
Donc il dit, au fur et à mesure que le prix du pétrole monte, on va chercher du pétrole plus loin. Alors il est possible qu'un jour il n'y en ait plus, mais à ce moment-là, il y aura peut-être la fusion.
Oui.
Et donc quand il y aura la fusion, ben, on n'aura plus de problème
Tout à
d'énergie,
fait.
quoi.
C'est ça le truc, c'est que effectivement, parfois l'homme peut avoir tendance à consommer des ressources limitées. Et peut-être, par exemple, je pense à quand on utilisait de l'huile de baleine pour faire notamment pour faire des lampes.
C'est pas une bonne nouvelle pour les baleines, hein.
Bon voilà, c'était pas une bonne nouvelle pour les baleines. Donc on a frôlé de pas très loin l'extinction de certaines espèces de baleines. Mais ce qui est assez génial dans le progrès technique, c'est que on peut utiliser une ressource
Passer un cap.
pour passer un cap et pour pouvoir en utiliser une autre.
Voilà, tout à
Finalement,
fait, c'est
sans le
très bien.
pétrole, je ne sais pas s'il est possible de développer l'industrie nucléaire.
Ou l'industrie chimique,
Ou
bien.
l'industrie chimique, effectivement.
Mais ce qui est rigolo avec les baleines, j'ai lu un article très intéressant, c'est que du coup, les baleines étaient très méfiantes. Dès qu'elles voyaient un bateau, elles se taillaient, parce
Ouais.
que.
Oui.
Bon, je comprends. Mais alors, comme maintenant, on est devenu très gentil avec les baleines, deux ou
Ouais.
trois générations de baleines après, elles viennent voir les bateaux avec beaucoup de curiosité, quoi.
Tout à
C'est-à-dire
fait, c'est des animaux
que.
très très sociaux.
Très très sociaux, donc
Ouais.
elles s'intéressent beaucoup à l'homme, elles viennent voir ce qu'il en est,
Ouais.
mais pendant longtemps elles ont arrêté de le faire parce que ça ne leur apportait pas bonheur.
Ouais.
Donc aussi il y a ça qui se passe, c'est que dans le fond les baleines deviennent sympathiques.
Ouais, tout à fait, effectivement. Ces espèces-là, les baleines, les dauphins, les bélugas, c'est des animaux très très sociaux qui sont très curieux de ce qu'on fabrique.
Qui sont
Ouais.
toujours très intéressés par nous,
Ouais,
tous
tout à
ces
fait.
gars-là.
Effectivement. Et en revanche, du coup, aujourd'hui, quand on voit toutes les estimations hein, qui se mettent d'accord sur comment la démographie mondiale va évoluer, il n'y a pas une seule étude qui dit que la démographie va dépasser maintenant les 11 milliards d'habitants.
Je sais pas si on arrivera.
Voilà, je sais pas si on y arrivera. Alors moi, déjà, je me souviens, il y a un peu plus de 10 ans, quand j'étais au collège, on parlait aussi déjà de ce truc-là, et moi, on me disait que l'humanité allait atteindre un maximum à 12 milliards. Et plus les années passent, plus les estimations, et en l'espace de 10 ans quand même, donc c'est plus le temps passe, plus on dit, donc finalement, on va atteindre les 11 milliards. Et aujourd'hui, on dit finalement, on va atteindre plutôt peut-être les 10 ou 10 milliards et demi au maximum. Et pareil, ce maximum, avant, on disait que ça allait être plutôt vers 2100. Et puis dernièrement, c'est plutôt 2080. Et en fait, même dans les études de ces 3 dernières années, on dit plutôt peut-être dans les années 2060.
2060. Et vous savez, c'est pour une raison très simple, c'est qu'une fille qui n'est pas née aujourd'hui,
Ne sera jamais née.
elle sera pas là dans 30 ans, et donc elle fera pas des petits.
C'est clair. Ça, c'est donc, une certitude.
Ça, c'est absolument certain. Ce qu'il y a de bien avec la démographie, avec laquelle j'ai mal travaillé, et avec laquelle avait beaucoup travaillé un homme pour lequel j'ai la plus grande estime, qui s'appelle Alfred Sauvy, c'est que c'est totalement prévisible.
Ouais.
Parce que Sauvy avait fait des tas d'études, par exemple, il disait, en 1960 à peu près, il disait, compte tenu du boom démographique qu'il y a eu, on va avoir un gros problème dans les universités vers 68. Et pan.
Ouais.
Donc, c'est rigolo, quoi.
Oui, bien sûr, ça c'est une certitude, c'est-à-dire que ceux qui sont nés, bon, il peut se passer des trucs à la marge, mais on sait que globalement, il y en aura plus de 95% qui seront là dans 20 ans.
Oui, et puis vous avez cette espèce, dans la courbe des âges français, vous avez cette espèce de bulle qui s'est fait de 45 à peu près à 66, une vingtaine d'années, qui s'est déplacée au travers de... Donc au début, c'était prénatal, et d'ici quelques temps, ça sera... Borgnole, ça, c'est le type qui vous enterre, là.
Oui.
Mais vous la voyez très bien, cette bulle s'est déplacée. Et à chaque fois, ça fait que les secteurs de les produits qu'achète cette bulle.
Oui.
Ça devient des valeurs de croissance.
Oui, tout à fait.
Et dans les marchés financiers. Aujourd'hui, si vous voulez, les magasins pour les femmes enceintes, c'est pas un métier de croissance.
Non, aujourd'hui, on investit plutôt sur les verres progressifs.
Les produits de pharmacie, les chaises roulantes.
les cannes, etc.
Les cannes, c'est vachement bien.
Ça marche très bien, effectivement. Et donc, par conséquent, on arrive sur une décroissance démographique. Et par conséquent, je me dis, est-ce que on risque pas de subir un malthusianisme inversé, c'est-à-dire une baisse de la croissance mondiale, de l'économie mondiale, du produit intérieur brut mondial, par une baisse tout simplement de la démographie, par deux facteurs. Déjà, l'amoindrissement du nombre de personnes. Alors ça, c'est une question pour après 2060 plutôt.
Mais en principe, la croissance économique, si vous voulez, c'est le nombre de personnes multiplié par la productivité.
Oui.
Donc si le nombre de personnes baisse, et si la productivité reste la même, ça va être dur. Hein.
Oui, bien sûr. Alors ça, il faut imaginer que quand même, on va avoir toujours un accroissement de la productivité. Alors il ne faut pas non plus le surdoser, parce que certains peuvent avoir tendance à penser qu'avec l'IA, on va avoir une productivité qui va être absolument décuplée. J'attends de voir quand même, mais en revanche, je crois toujours dans le capitalisme, et donc je pense que la productivité continuera d'augmenter.
Et puis on va peut-être vieillir, et puis on va peut-être... bon, moi j'ai 82 balais, comme tout le monde le sait, et je continue à bosser, ce qui prouve que j'ai atteint un niveau d'incompétence. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, les gens qui ont 60, 70, 75 ans sont dans une forme olympique, et si c'est pas des métiers physiques, je vois pas pourquoi ils cesseraient d'être prof d'université et tout. Donc ça veut dire que cette histoire de retraite sur laquelle tout le monde se tape la tête, peut-être on la prendra pas.
Tout à fait.
Et peut-être on sera content de pas la prendre.
Ouais, tout à fait. Alors on va en parler dans 10 minutes parce que j'ai lu un rapport très intéressant de Goldman Sachs sur cette question-là. C'est en fait, il se pose la question surtout pas tellement sur le nombre de personnes parce que ça c'est de la prospective, on sait pas forcément, c'est difficile à estimer, surtout les variations de taux de fertilité, voilà. Mais en revanche, il cherche à se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir le ratio actif inactif d'ici 2075, en gros. Et on va voir que finalement c'est pas si compliqué que ça, et qu'en plus de ça, les forces politiques en fait ont beaucoup moins de pouvoir que ce qu'elles ne croient en réalité. Et tout d'abord, je voudrais faire un état des lieux du coup de l'état de la fertilité dans différentes zones du monde. Alors tout d'abord, j'ai sélectionné un petit graphique avec le niveau mondial de la fertilité. Donc là, on n'est pas sur la population, on est sur la fertilité. Et donc on voit qu'au niveau mondial aujourd'hui, on est à peu près à 2,2 ou 2,3 enfants par femme, sachant qu'on a atteint un pic à la fin des années, enfin au début des années 60, au-dessus de 5 enfants par femme. Donc on était vraiment beaucoup, et on voit qu'on est vraiment en chute libre depuis. Et ensuite, je voudrais regarder quelques pays d'abord en Occident, parce que là, on sait que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a un problème de fertilité, et que c'est pas nouveau. Et déjà dans les années 90, la plupart des pays d'Europe occidentale étaient en dessous des 2 enfants par femme. Alors on en faisait partie déjà avec la France. En fait, la France a même eu un parcours assez particulier en termes de fertilité, c'est-à-dire que on a eu une fertilité extrêmement forte à la fin du 18e siècle et au début du 19e, là où les autres pays n'avaient pas du tout une démographie aussi forte.
C'était parce qu'on commençait à s'améliorer dans l'agriculture, et du coup on a été foutre d'ébranler à l'Europe entière, puisque la population de la France, c'était à peu près la moitié de la population européenne, si vous compreniez la Russie aussi. Donc, c'est-à-dire que quand la France se battait contre l'Europe, c'est que c'était moitié-moitié, quoi.
Ouais,
c'était,
ouais.
On était les États-Unis de l'époque, quoi.
Ouais, c'est, justement, sur la France à l'époque napoléonienne, je ne sais plus qui avait cette formule-là, mais on nous appelait la Chine de l'Europe.
On avait déjà, parce qu'on était très nombreux. Et puis, grâce à Dieu, Napoléon a fait tuer 3 millions de Français. Donc
ouais.
Ça, et ensuite a fait passer la loi agricole qui forçait les gens à diviser leurs terres. Donc, à partir de ce moment-là, les Français et les Françaises ont décidé de faire un ou deux enfants.
Ouais.
C'est tout.
Et du coup, la natalité a beaucoup moins été boostée derrière.
Et du coup, c'est vous débranlé par l'Allemagne.
Voilà, tout à fait, exactement. Et ensuite, on voit que les autres pays, que ce soit la Fédération de Russie, l'Italie, l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'ils sont à 1,1 aujourd'hui. L'Italie, ils sont à 1,2. L'Allemagne, ils sont à 1,4. Enfin bref, c'est vraiment l'hécatombe partout.
Oui, et mais si ça, on est à 1,1 ou à 1, vous pouvez dire que votre population sans apport extérieur va baisser de moitié dans les 40 ans qui viennent.
Ouais.
C'est beaucoup quand même.
Ouais.
Donc là aussi,
c'est
par exemple, si vous avez un petit enfant en Italie aujourd'hui...
Il y a 4 grands-parents.
Il y a 4 grands-parents, et ces 4 grands-parents, c'est le seul petit enfant.
Ouais.
Ça veut dire que vous n'allez pas l'envoyer en guerre contre les Russes.
Non, et ça veut dire que le prix de l'immobilier va beaucoup baisser.
Ben, le gamin, il va se retrouver avec 4 appartements. Hein.
Ouais, donc il va les vendre. Ou
à
les mettre en Airbnb.
À qui
à qui, mais ou alors les mettre en Airbnb. Mais d'ailleurs, les Allemands raffolent des villas en Toscane. Ça a même un nom culturellement. C'est...
Oui, ils adorent ça. D'ailleurs, ouais. Les Anglais aussi, les villas en Toscane, c'est très bien. Mais vous avez des tas de trucs dans le sud de l'Italie où maintenant on vous donne des maisons si vous les
entretenez. Alors ça, ouais, c'est surtout pour les jeunes couples.
Ah oui.
Ils se disent on a des vieux villages où tout le monde a 65 ans et du coup ils voudraient peut-être voir quelques enfants, quelques poussettes de temps en temps dans le village, et donc effectivement ils proposent des maisons à 1 euro. Alors j'imagine que ça ne comprend pas les frais de rénovation, parce que pour 1 euro on va pas très loin, mais c'est sûr ça peut être intéressant surtout pour des gens qui ne sont pas obligés de travailler.
Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est essayer de se mettre d'accord avec 20 copains et copines.
Oui, exactement.
Et on va se foutre dans un village en Italie.
C'est ça.
Et on essaie de se dépatouiller là-bas.
Si possible, on a une boîte qu'on peut gérer en ligne et tout. Voilà, du coup, on n'est pas obligé d'aller au bureau à la ville, à Rome ou je ne sais où. Et là, effectivement, on mène la belle vie. Là je crois que oui, c'est un bon plan, effectivement. Ensuite, je voudrais regarder d'autres pays, notamment en Europe centrale, parce qu'on pourrait se dire, l'Europe occidentale s'est développé depuis assez longtemps. Qu'en est-il d'économies qui, elles, sont encore dans une phase de développement assez intense, notamment la Hongrie et la Pologne. Et alors, la Hongrie, ça remonte un petit peu depuis les années 2000.
Il a pris des mesures pas croyables.
Il a pris des mesures pas croyables. Vraiment. Alors justement, voilà, je voudrais en parler un petit peu, parce que malgré tout... La démographie en Hongrie reste quand même en dessous de ce qu'il faudrait être, puisqu'elle est pas au-dessus de 2, hein, elle est à 1,8 actuellement, selon les dernières mesures. Mais bon, c'est
mieux qu'avant.
C'est quand même mieux qu'avant.
La Pologne, ça se ratatine beaucoup, ce qui est curieux pour un pays catholique, mais ça prouve que...
Et la Pologne, c'est vertigineux comment ça descend à partir des années 80. C'est la ligne verte. On était au-dessus de 2,4 en 1980, et là ça s'est effondré jusque dans les années 2000. Ça se maintient à peu près depuis, autour de 1,4, 1,3, mais c'est quand même assez vertigineux, quoi. Et alors, je voudrais parler un petit peu des mesures de Viktor Orban, parce que elles sont intéressantes. Alors déjà, il y a des incitations fiscales, c'est-à-dire qu'il y a des exonération d'impôts à vie pour les mères. Alors d'abord, c'était pour les mères de 4 enfants ou plus. Et à partir d'octobre 2025, donc là, nous arrivons dans cette période-là, ça va concerner les mères de 3 enfants. Et en fait, il y a déjà des débuts d'exonération fiscale dès le premier enfant.
Oui.
Voilà, donc c'est assez important. Alors, le coût estimé, c'est 2,3 milliards d'euros d'ici 2029, ce que je trouve pas énorme, puisque je trouve que le manque à gagner par rapport aux vies créées et donc le nombre de richesses créées, c'est pas très important. Enfin voilà, il y a pas mal de...
Il paye les femmes à la maison aussi, je crois, plus ou moins.
Ouais. Alors,
et en plus, on donne une maison aux femmes qui ont 3 enfants.
Ouais, il y a tout un programme de subventions pour l'achat ou la construction de logements, alors qui est échelonné selon le nombre d'enfants. Donc par exemple, jusqu'à 36 000 dollars pour les couples mariés avec 3 enfants ou plus.
Vous voyez, c'est à peu près, d'après ce que vous dites, c'est à peu près 6% du PIB, là,
ouais.
C'est quand même un peu moins con
Oui.
Que de faire passer les dépenses militaires de 1 à 4% du PIB, quoi, ça me paraît.
Ouais, tout à fait.
Il vaut mieux faire des soldats que des tanks, quoi, non ?
Oui, oui.
Ça me paraît une meilleure idée, non ? Je sais pas.
Ouais, tout à fait. Et puis aussi, ça a un autre effet, c'est que passer par des exonérations fiscales plutôt que de passer par des aides directement, ça fait que pour des exonérations fiscales, l'incitation à avoir des enfants va être beaucoup plus diffuse dans toute la société, dans toutes les classes sociales. Là où les aides sociales, en général, ça va concerner en fait beaucoup plus, on va dire, le tiers de la population.
C'est-à-dire que vous essayez de dire de façon maladroite, c'est que dans le fond, il faut inciter les riches à faire des enfants, au moins autant qu'on incite les pauvres à faire des enfants.
Oui, c'est ça, mais alors pas que les riches.
Est-ce que c'est une bonne idée, ces riches ? Vous savez, parce que je crois qu'ils ne sont pas bien vus en ce moment.
Oui.
D'ailleurs, c'est une solution. Si les riches ont trop d'argent, vous leur filez, il faut qu'ils fassent plein d'enfants, comme ça, la génération d'après, ils en auront moins.
Ouais, sans doute, ouais. Ouais,
ça serait une bonne idée.
Bah, c'est une manière de faire de la redistribution.
La plus ancienne, hein.
Oui, tout à fait.
Ça marche bien.
Oui, ça marche très bien. Mais en fait, c'est surtout que les riches font pas mal d'enfants encore.
Oui, les très riches font pas mal d'enfants. Oui. La classe moyenne en fait beaucoup moins.
Oui, tout à fait.
Et les pauvres, les pauvres.
Les pauvres en font plus que la classe moyenne.
Oui.
Donc en fait, moi, c'est ça que je veux dire, c'est que il faut inciter autant que possible la classe moyenne aussi à faire davantage d'enfants.
Et comme c'est sur la classe moyenne que repose la plupart des impôts, les incitations fiscales, c'est peut-être pas plus bête qu'autre chose, quoi.
Tout à fait, c'est voilà, exactement, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a tout un tas de d'incitations à faire des enfants en Hongrie. Ça marche mieux que s'il ne se passait rien, hein, si on compare aux autres pays.
Oui.
Mais on n'a pas encore trouvé vraiment la solution pour booster la natalité. Donc ça, c'est encore une inconnue.
J'ai réfléchi à ça, je me disais, dans le fond, je vais dire une grosse bêtise là, mais c'est pas grave, j'ai le droit, je suis vieux. Il y a peut-être une autre solution aussi, c'est qu'il y a des femmes qui sont très contentes d'avoir 7, 8, 10 enfants, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudrait peut-être dire, ok, la plupart des femmes, elles en ont que 2, mais s'il y en a 10% qui veulent en avoir 10, on va vraiment les aider, celles-là.
Ouais.
Et alors, à ce moment-là, on les met à la campagne et c'est des poules pondeuses. Non, mais je veux dire, c'est pas plus bête.
Oui. Mais il y a aussi une autre solution. Alors, ça fait très dystopique et je sais pas encore trop quoi en penser. Mais dans quelques années, ce qui va arriver, c'est les utérus artificiels.
Oh, ça, j'y crois pas.
Bon, voilà. Alors,
j'y crois pas, c'était dans Le Meilleur des Mondes qu'il y avait ça. Et j'y crois pas, si vous voulez, parce que. La vie, ça fait, quand j'avais votre âge, on m'expliquait qu'on allait mettre des produits chimiques les uns sur les autres et qu'on allait créer la vie à partir de on n'a jamais réussi à créer la vie. La vie, de façon, on n'a jamais réussi. Donc, on en est beaucoup plus loin encore qu'on n'en a jamais été. Donc, s'imaginer qu'on peut prendre une espèce de bébé tout petit et puis le coller dans un machin chimique qui va faire ce que ferait une mère.
Ouais.
Ça me semble n'importe quoi.
Ouais. Mais alors, théoriquement, si jamais c'était possible, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose, en tout cas une solution pour...
Moi, ça me fout la trouille, parce qu'à ce moment-là, vous allez dire, bon, ben, je veux que des blonds aux yeux bleus, ou j'en sais rien, et je veux que des types qui soient obéissants et pas inventifs, et donc à ce moment-là, on va commencer à bidouiller les... Et à la place d'avoir cette merveilleuse diversité, on va se retrouver avec des gens qui se ressembleront tous, et c'est, vous savez, c'est dans la guerre des étoiles, là, ceux qui sont en blanc, là, qui courent toujours, qui sont toujours massacrés, hein.
Oui.
Les couillons de service, quoi. Ouais. C'est le bon à massacrer, quoi.
Ouais, c'est le film Bienvenue à Gattaca aussi qui traite de ce sujet. Et alors, il y a une autre zone dans laquelle la démographie est assez en berne. Alors, c'est l'Asie, tout simplement.
L'Asie du Sud-Est, un certain nombre de pays. La Corée, c'est un vrai désastre, ils sont à 0,9. Le Japon, c'est guère mieux.
Ouais.
Hong Kong, c'est pas bien. Les Philippines, ça s'écroule.
Ouais. Alors, tout d'abord, je prends trois pays dans lesquels on sait que la démographie est en berne. C'est le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Alors, la Chine, c'est assez intéressant parce qu'on était encore au-dessus de 2,5 enfants par femme en 1990. Mmh. Il y a eu une chute abrupte. On est arrivé aux alentours de 1,6, 1,7 enfants par femme. Et là, on s'est maintenu à ce niveau-là jusqu'en 2015, à peu près même 2017. Et ensuite, on a eu encore un effondrement très abrupt. Et aujourd'hui, on est encore en dessous, on est passé en dessous de la fertilité du Japon. Donc le Japon qui est à 1, je crois, ou 1,2, 1,1. et la Chine qui est passée à 1,05, quelque chose dans ces eaux-là. Donc c'est là aussi,
Il va falloir qu'ils fassent
vertigineux.
quelque chose.
Ouais.
Et là aussi, si vous voulez, dans les sociétés asiatiques, c'est difficile parce que ben, dans un pays comme le Japon, les femmes travaillent pas. Donc je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. On va voir. La Corée, ils ont un énorme problème. Et ben,
Oui, la Corée, ils sont à 0,8. C'est pour le coup,
c'est monstrueux.
ouais, c'est
C'est
monstrueux.
le pays.
C'est un
Il n'y a
truc.
plus d'enfants, quoi. Le
Ouais,
pays
tout à
sans
fait.
enfants.
Ouais.
Mais quand je vais à Zurich, ce qui m'arrive encore de temps en temps, je sors de la gare de Zurich, vous savez, sur la Bahnhofstrasse, là, la grande.
Ouais.
Et vous regardez les gens qui se promènent comme ça, ils sont tous vieux.
Ouais.
Vous ne voyez jamais un gamin. C'est déprimant.
Ouais, c'est assez déprimant, ouais, tout à
Vous
fait.
ne voyez pas des gamins qui courent, sales, dans la rue, les pieds nus, quoi.
Ouais.
Ça, c'est sympa.
Oui, tout à
Qui jouent
fait.
au football, il n'y en a
Ouais.
pas. Il n'y a pas de gamins.
Ouais.
Moi, je trouve ça.
Oui,
Qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Moi, c'est un peu tard, mais vous.
Moi, j'ai prévu de m'y mettre dans quelques années.
Bon,
Mais encore une fois, il y a d'autres pays aussi. Justement, vous l'évoquiez, Asie du Sud-Est. J'ai regardé l'Inde, par exemple, l'Inde qui était encore à 6 enfants par femme en 1960. Et là, on est sur une grande ligne droite. Aujourd'hui, on est à 1,9 enfants par femme. Donc, on vient de passer
oui,
sous
mais
les 2
la
enfants par
beauté de
femme.
ça, si vous voulez, quelque part, c'est que si ça stabilisait, ce serait le pire. Parce que
Ouais.
vous avez, comme ils avaient 6 enfants par femme, vous avez un nombre très grand de femmes en âge de porter des bébés qui arrivent.
Ah oui, tout à fait.
En nombre absolu. Il
Bien
y en a
sûr.
plus que dans la génération
Ouais, tout à
précédente. Donc
fait.
si ces femmes réussissent à faire 1,9 à ce moment-là, la population stabilise et tout va bien.
Oui.
C'est si ça tombe à 1
Ouais.
que ça devient à ce moment-là, la catastrophe arrive assez vite, quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en fait, effectivement, la population a tellement cru ces dernières décennies que même s'ils s'établissent toujours à 1,9, ou même admettons qu'ils arrivent à 1,5 et qu'ils se
La
stabilisent
population
là,
continuera à monter.
voilà, ça va continuer à monter pendant au moins 60 ans, quoi. Ça va
60 ans,
être.
avec, entre le nombre de plus grandes femmes et l'espérance de vie qui
Oui,
augmente,
tout à fait.
ça peut continuer. Donc là, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que l'Inde est perçue que par beaucoup de gens comme le réservoir de la main-d'œuvre pour
Ouais.
le monde entier d'ici
Ouais.
20 ans.
Ça va être le cas encore pendant 40 ans.
Voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait. Alors la Thaïlande aussi, on est encore assez bas. Le Vietnam, l'Indonésie, dans tous ces pays-là, on arrive maintenant en dessous des
Le
2 enfants par
Vietnam, ils sont
femme.
maintenant, je sais pas combien, 120 millions, je sais pas,
Ouais,
il y
ils
a un
sont
monde
beaucoup,
fou au
ouais.
Vietnam.
Ouais, tout à fait. Et une autre zone aussi dans laquelle on a la même chose, c'est l'Amérique du Sud. Et là, pareil, on a des changements très très abrupts en l'espace de quelques années. On voit que l'Argentine était encore à la fin des années 2010 au-dessus de 2 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 1,5, c'est pas énorme. L'Uruguay, le Brésil, le Pérou, partout, on est sur des baisses tendancielles. J'ai regardé d'autres pays aussi un petit peu dans le monde. Le Mexique, par exemple, était à 2,11 enfants par femme en 2015, on est aujourd'hui à 1,38. La Colombie, on était à 1,94 en 2015, on est aujourd'hui à 1,2. Le Chili, on était à 1,8 en 2015, on est aujourd'hui à 1,07. La Turquie aussi, changement très très abrupt dans l'espace de 5 ans. On était encore à 2,16 enfants par femme en 2015, on est aujourd'hui à 1,34. L'Iran, on était à 2,16 il y a 10 ans, on est aujourd'hui à 1,43. Les Philippines, on était à 2,77 enfants par femme, c'est-à-dire une très bonne natalité. Il y a 10 ans, on est aujourd'hui à 1,5. Donc bref, là pour le coup, ça s'effondre absolument et c'est partout.
C'est une question intéressante, c'est parce que il y a à peu près 50 ans, quand on a inventé la pilule, il y a eu un changement sociologique monstrueux. C'est, dans le fond, les gens savaient pas très bien comment ils allaient avoir d'enfants, puis ils acceptaient ce qui venait, etc. Tandis qu'à partir de 50 ans, d'abord dans les pays développés, maintenant apparemment partout,
Ouais.
c'est la femme qui détermine combien elle va avoir d'enfants. C'est nouveau.
Ouais.
Enfin, c'est nouveau, ça fait 50 ans, c'est la première fois dans l'histoire. Donc il y a quelqu'un qui détermine, et on pensait tous que la femme avait envie d'avoir 2 ou 3 enfants. En fait, on se rend compte que dans pas mal de cas, elle veut en avoir 0, quoi. Et ça, c'est un truc auquel on s'attendait pas du tout. Le coup de la femme qui veut avoir 0 enfant, ça, c'est nouveau. Alors je sais pas trop comment faire, parce que dans le fond, les enfants, quelque part, c'était un produit qui tendait enfin qui avait tendance à se développer dans les familles stables, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, il y avait une stabilité de la famille, le père, la mère, bon, il y avait une espèce de... Comme la famille s'est beaucoup défaite depuis 40-50 ans, ben les femmes sont un peu seules souvent, elles n'ont peut-être pas envie d'avoir des enfants toutes seules, quoi. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Et donc c'est un effet secondaire peut-être simplement de la destruction de la famille, quoi, mais... J'ai pas de solution parce que ouais. je veux pas dire bon, on va interdire le divorce, quoi, parce ouais. que...
Ce qu'il y a, c'est que ça, comment dire, je trouve que ce que ça met en exergue, c'est que on peut avoir tendance à attribuer, il y a certainement une part de responsabilité, le phénomène de dénatalité, on va dire, à l'idéologie. Dans, je veux dire, dans notre civilisation à nous, en Occident, on se dit oui, voilà.
Alors pas c'est, dans les pays musulmans.
Voilà, c'est dans le c'est le féminisme, c'est tout ça, c'est nanan. Et le fait de voir des pays qui sont pas tellement contaminés par ce genre d'idéologie à la con, notamment, je pense aux pays asiatiques, Asie du Sud-Est. Je pense pas qu'au Vietnam il y a un mouvement féministe extrêmement puissant. Enfin, peut-être que je me trompe après tout. Et pourtant, on voit voilà, partout dans le monde, la démographie s'effondrer en l'espace de 10 ans. Et il y a 10 ans, ils étaient au-dessus de 2, c'est-à-dire au-dessus de tous les pays européens. Et aujourd'hui, dans certains cas, là, dans les derniers pays que j'ai évoqués, la Turquie a une natalité aujourd'hui plus faible que celle de la France. Voilà. Et c'était il y a encore 5 ans, c'était pas le cas. Il y a 10 ans, c'était encore moins le cas.
Ça a l'air d'être un produit secondaire, dans le fond, de ce qu'on appelle la libération de la femme. C'est-à-dire que, justement, elle se libère de son foyer, qu'elle puisse travailler, etc. Donc, j'ai... Par contre, j'ai pas d'idée sur la question, parce que... à chaque fois, c'est une décision individuelle, quoi.
Ouais. Ouais, non,
par contre, je peux dire, en tant que, qu'être humain, si vous voulez, c'est que... J'ai connu des tas de familles, j'ai jamais connu des parents qui avaient eu trop d'enfants.
Ouais.
J'ai connu des tas de parents qui trouvaient qu'ils n'en avaient pas eu assez, mais qui en avaient eu trop, j'en ai jamais vu. Donc, c'est peut-être aussi parce que on a perdu le sens de la durée dans une vie. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils auront toujours 30 ans, quoi.
Oui. Je pense qu'il y a de ça, oui.
Ils auront toujours 30 ans, donc ils ne sont pas pressés. Puis ensuite, ben, ils n'ont plus 30 ans, puis c'est râpé. Je crois que j'ai lu des statistiques tout à fait sérieuses qui semblaient indiquer que si une femme n'a pas d'enfant avant 30 ans, elle a une chance sur deux de ne pas en avoir du tout. Donc, dans l'effondrement de cette natalité, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a la moitié des femmes qui n'ont plus d'enfants du tout. Peut-être celles qui peuvent en avoir en ont deux ou trois. Et celles qui en a peut-être la moitié qui ont tellement attendu qu'après 30 ans, elles peuvent plus, quoi.
Ouais,
c'est...
Ouais.
Donc j'aimerais avoir un truc un peu plus fin, c'est sur les gens qui ont des enfants, combien ils en ont ?
Ouais.
Et vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'ils en ont 3, 4 ? Et puis les autres, la moitié de la population des femmes qui en a 0. J'aimerais pas simplement la moyenne, j'aimerais une distribution de cette moyenne pour savoir ce qui se passe.
Oui, il doit y avoir des statistiques là-dessus sur le pourcentage de familles qui ont un enfant, deux enfants, trois enfants. Ouais. Oui, ça doit pouvoir se trouver. Il me semble que j'ai déjà vu ce genre de statistiques il y a pas si longtemps. Mais ouais, puis il y a d'autres phénomènes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le célibat est beaucoup plus courant qu'auparavant. Apparemment, un homme sur quatre ne connaîtra jamais le fait d'être en couple parmi ceux qui naissent aujourd'hui.
Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. On en a beaucoup parlé, si vous voulez. Nous, on a fait une émission spéciale il y a quelques temps qui avait été vue par beaucoup de monde.
Ouais.
Une sur les hommes, une sur les femmes, en disant ça va plus du tout. Les relations entre les deux, ça marche pas du tout. Donc cette espèce d'isolement de un quart à la moitié de la population chez les hommes et un quart à la moitié de la population chez les femmes, c'est un phénomène assez nouveau, quoi.
Ouais, tout à fait. Et pour avoir un petit peu plus de bonnes nouvelles, parce que là on est
non, on n'est pas des nouvelles. On dit simplement, on comprend pas très bien. Donc c'est voilà, c'est pas. Je peux pas dire que quelque chose que je comprends pas, c'est une mauvaise nouvelle, parce que je sais pas.
Après, peut-être qu'il y aura un retour à un moment donné. Il y aura tellement.
On l'a
peu
vu
de
en France en 42. Si vous voulez, la natalité a commencé à remonter en 42, que la France était au fond du trou.
Hein. Voilà. Peut-être que les Italiens, ils vont se dire, bon bah, j'hérite de 4 baraques, je vais peut-être en vendre 2 et puis je vais en garder 2 pour faire une très grande famille. Enfin, voilà.
Peut-être qu'il y aura. Il peut y avoir des rebondissements.
Voilà, il peut y avoir des rebondissements.
Il y en a eu dans l'histoire.
Je sais
pas
trop comment. Voilà. Mais en tout cas, je pense que pour les 40 prochaines années, l'humanité est en train d'affronter une crise démographique et on va devoir se poser la question de comment perpétuer pardon, l'humanité. Goldman Sachs a fait un rapport. Une petite étude sur en fait comment maintenir le taux d'activité de la population.
Oui, c'est
donc en fait parce que là on parle de notamment du fait qu'on ne fait plus
d'enfants. Au Japon, les femmes bossent pas par exemple, on pourrait les mettre au boulot.
Ouais, tout à fait. Voilà, et par égalitarisme et ils se disent en plus de ça, il y a un autre problème, c'est que il y a l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, ce qui est un problème pour certains, mais en fait, on va voir que pas vraiment. Et déjà, il commence le rapport en disant que la proportion des 15-64 ans, en fait, était proche des 66%, c'est-à-dire le pic historique en 2000. Et sur les 50 prochaines années, ça va descendre jusqu'à à peu près 60%. Donc voilà, ça c'est un problème et on va pouvoir y remédier. Un autre truc que j'ai vu dès le début du rapport, et ça j'ai trouvé ça mais absolument fascinant, en 2022, une étude se pose la question quelles sont les facultés mentales d'un individu de 70 ans par rapport à l'an 2000 ? Et en 2022, un individu de 70 ans avait les mêmes facultés mentales qu'un individu de 53 ans en 2000. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace de 22 ans, on a gagné 17
mais
ans.
Mais ça, c'est ce que je vois, dans la génération de mes parents, des gens qui avaient 50-60 ans, c'était quand même des vieux.
Ouais.
Aujourd'hui, vous voyez des mecs et des femmes de 50-60 ans qui pètent la forme. Quoi. Donc, ouais, on voit bien que aujourd'hui, la femme de 50 ans, c'est la femme de 35 ans d'il y a 30 ans. Quoi.
Ouais.
Enfin, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que non seulement on vit plus longtemps qu'avant, mais on vit beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps aussi.
Ouais. Et même physiquement, enfin,
ouais, tout à fait, physiquement. Alors physiquement aussi, là on était sur les facultés mentales, mais physiquement, quelqu'un qui avait 70 ans en 2022, c'était l'équivalent de quelqu'un qui en avait 56 en 2000.
Donc logiquement, si on l'emmerde pas avec des lois sociales ou je sais pas quoi, il peut continuer à bosser s'il a envie.
Ouais,
moi je crois que la solution, c'est de dire aux gens, si vous voulez prendre votre retraite, vous pouvez avec un nom, mais elle sera pas très grosse, mais si vous voulez continuer à bosser un peu plus longtemps... Mon ouais. cher frère, qui a 83 ou 84 ans, il a continué à bosser en Suède jusqu'à il y a quelques années. Mmh. Et donc, on lui piquait du pognon tout le temps pour payer les retraites des autres. Et alors qu'il aurait pu prendre sa retraite à lui. Donc, donc il peut y avoir la solution au problème de retraite en France, c'est dire si vous avez continué à bosser, on vous prendra un peu de pognon, mais on vous en prendra moins fiscalement. Mais on vous en prendra un peu plus pour les retraites, et puis vous prenez pas votre retraite. Quoi.
Ouais.
Donc c'est peut-être ça la solution.
Ouais, tout à fait. Là-dessus, ça me fait penser à un truc. Alors c'est sur la page 11 de leur rapport, c'est le graphique numéro 9. C'est la corrélation entre la longévité de la carrière et d'une part l'augmentation de l'espérance de vie.
Oui.
Dans le premier tableau. Et le deuxième tableau, c'est en fonction de l'augmentation de l'âge minimal pour aller à la retraite. Et on voit qu'en fait, la corrélation est beaucoup plus forte avec l'espérance de vie qu'avec les politiques publiques.
C'est-à-dire que les gens qui réclament la retraite, ils réclament de claquer.
Oui, c'est ça.
Le
politicien a beaucoup moins d'effet que la médecine.
Ben, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours dit que le seul pouvoir révolutionnaire dans le monde, ça a toujours été le capitalisme, qui fait des inventions, alors que le politicien, il fait des impôts. Donc, plus vous faites d'inventions, plus la vie dure longtemps, et plus les gens peuvent travailler. Et peut-être, peuvent-ils travailler avec bonheur, parce que si leur espérance de vie augmente, c'est peut-être qu'ils sont heureux, quoi.
Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est le résultat de deux choses, notamment, du coup, l'espérance de vie, le fait qu'on peut être plus vieux et plus en forme qu'auparavant. Quelqu'un de 70 ans aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de 70 ans il y a 40 ans. Et puis aussi autre chose, c'est que on a beaucoup plus tendance à travailler longtemps dans les métiers qui sont non manuels. Or, les métiers manuels ont tendance à disparaître.
C'est par des machines.
Naturellement, on est remplacé par des machines. Et en revanche, on a de plus en plus d'emplois de bureaux. Et donc, on reste en forme plus longtemps, tout simplement.
C'est tout à fait évident. Et encore une fois, ça veut dire un truc très extraordinaire. Vous savez pourquoi Bismarck avait mis la retraite à 60 ans? J'ai dû vous le raconter 10 fois. Parce que Bismarck, il avait demandé à ses troupes, parce que c'est le premier qui avait fait une politique sociale, Bismarck.
Ouais.
On lui avait dit, les ouvriers meurent à 60 ans. Donc il a dit, ouais, on va mettre la retraite à 60 ans. Mm-hmm. Et maintenant, les ouvriers meurent à 80. Et donc, d'abord, il faut les payer 20 ans, ce qui est beaucoup.
Oui.
Et deuxièmement, il n'y en a plus d'ouvriers, et donc peut-être les gens qui travaillent, je sais pas, dans des boulots de recherche, comme le professeur Raoul tout son temps, c'est peut-être pas très intelligent de les mettre à la retraite à 63, 64 ans, parce que vous amortissez un capital gigantesque à zéro d'un seul coup.
Oui.
C'est complètement crétin. Il y a peut-être des façons plus intelligentes pour la société de développer des boulots que les vieux feront, je sais pas, oui, l'aide à l'éducation, prendre 3-4 jeunes et devenir leur mentor. Enfin, il y a des tas de choses qu'on pourrait imaginer.
Oui.
Et qu'on a cette espèce de fixation sur la politique de Bismarck. Mais enfin, Bismarck, c'était en 1870, donc ça fait, attendez, ça doit faire...
Bah, ça fait 150 ans.
Ça fait 150 ans, donc on pourrait peut-être trouver des choses plus intelligentes que Bismarck, quoi.
Ouais.
Et si on faisait des fonds de pension individuels, l'idée de l'université de l'épargne, les gens prendraient leur retraite quand ils voulaient.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui empêcherait les gens de prendre leur retraite ?
Est-ce qu'on a besoin d'un âge de départ à la retraite ?
Mais non.
En fait, on n'en a pas besoin du tout, parce que à chaque fois, c'est quasiment le seul paramètre qui est évoqué. Quand on parle des retraites, on parle uniquement de l'âge de départ.
64 ans, 63 ans, etc.
Voilà, c'est toujours la
question. Moi, j'ai 82 ans et je bosse encore.
Oui. Et il y a plein de gens qui ont plus de 70 ans, plus de 75 ans et qui veulent encore travailler.
Bien sûr.
Et ils ne sont pas obligés de travailler à temps plein, on peut travailler à temps partiel.
Mais moi, ce que j'ai trouvé magnifique au Japon, justement, parce qu'il y a des tas de problèmes de démographie, c'est qu'alors au Japon, quand vous êtes un nouveau employé particulièrement compétent, que tout le monde aime, qui fait travail bien, etc., un jour on fait une réunion et on annonce à l'employé qui est tout à fait satisfait qu'il ne prendra jamais sa retraite. Mm-hmm. C'est un cadeau. Mm. Donc au Japon, ne pas prendre sa retraite, c'est considéré comme un grand honneur.
Oui.
C'est rigolo quand même.
Ouais. Et il y a plein de gens, alors il y en a qui sont très doués pour la retraite, je suis très content pour eux, mais il y a plein de gens
qui claquent dans les deux ans qui suivent, surtout chez les hommes.
Oui, tout à fait, surtout chez les hommes, absolument.
Moi j'ai dit que la retraite, c'est une conspiration qui a été inventée par les jeunes pour se débarrasser des vieux compétents.
Après,
je suis sûr de ça.
Il y en a, ils sont à la retraite depuis 25 ans et ça leur va très bien. Mais,
oui, mais c'est pas grave ça, mais ils ont tout à fait le droit. Mais à ce moment-là, quelque part, ils ont le droit à des revenus moins disponibles. Mais si en même temps ils sont ravis d'aller pêcher, d'aller faire cultiver leur jardin et tout, ça me gêne, ouais, pas. Mais encore une fois, qu'est-ce qui donne le droit aux politiciens de décider en masse pour tout le monde ? En fait, ouais, la retraite, ça devrait être une décision individuelle.
Ouais.
Individuel et pas du tout une décision collective.
Mmh, tout à fait. Et ouais, alors je voulais regarder ce graphique, c'est le graphique numéro 2 qui se trouve page 3. C'est à chaque fois, les points différents sont d'autant d'années et d'autant de pays dans lesquels on a l'espérance de vie maximale.
Oui.
Et j'aurais pensé, honnêtement, que sur les 30 dernières années, cette courbe allait se stabiliser.
Oui.
Et en fait, on observe que pas du tout. On est sur une grande ligne droite, en gros, depuis les années 1860, 1870, mmh, où l'espérance de vie maximale dans les pays où elle est le plus élevée, augmente toujours de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est
et
à 85 ans.
Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a calculé aussi, que je trouve très intéressant, les années à la retraite où vous êtes en bonne forme. Parce que vous avez deux périodes quand vous partez à la retraite, si vous voulez. Celle où vous pétez la forme, hein, vous pouvez bouger, ça dure à peu près 10-12 ans. Puis les 5 ou 6 dernières années, en général, c'est la chaise roulante, c'est
moins drôle.
Quoi. Donc la période longue où vous, oui, êtes bien sous tout rapport, si j'ose dire, ça dure longtemps.
Ouais.
Et elle dure, et c'est celle-là qui augmente le plus. Parce que les 3 ou 4 dernières années, c'est toujours un peu pénible. Je crois d'ailleurs que dans la sécurité sociale, les gens dépensent 90% de ce qu'ils vont dépenser dans leur vie dans la dernière année. Donc
ah oui.
C'est pour vous dire que ça ne doit pas être terrible. Quoi.
Oui, c'est sûr. Oui.
Mais c'est ça, c'est aussi qu'il faut prendre en compte. Oui,
tout à fait.
C'est, alors peut-être continuer à travailler, mais travailler de façon différente. Mais il faut faire preuve d'un peu d'inventivité.
Oui, tout à fait. Et dans ce rapport aussi, ils disent que, en gros, pour garder le ratio qu'on a actuellement entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs, il ne faut pas uniquement regarder la période 15 à 64 ans, parce qu'en fait, elle n'est pas très pertinente. Déjà parce que à peu près personne ne travaille véritablement à partir de 15 ans.
Bien sûr que non.
On travaille plutôt à partir de 20 ans pour ceux qui travaillent le plus
22,
tôt.
23 ans, oui.
Alors, il y a certains, bien sûr, je vais avoir en commentaire certains qui ont travaillé manuellement à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais globalement, en fait, l'immense majorité fait des études et commence à travailler après 25 ans, quoi. Et en plus de ça, on a de plus en plus tendance, surtout en dehors de la France, à travailler aussi au-delà de 64 ans.
Évidemment.
Donc en fait, cette période de comment dire, cette classe d'âge de 15-64 ans qui était pertinente auparavant ne l'est plus réellement. Et ce qu'il faut surtout regarder, en fait, c'est la durée effective de la carrière.
Ouais.
Et donc pas comment dire, cette période de 50 ans, parce qu'en fait, presque personne ne travaille 50 ans, mais la durée effective de la carrière aujourd'hui, en fait, elle est plutôt autour des 35 ans.
Moi, j'ai commencé à bosser vers 27, 28 ans. Avant ça, j'étais universitaire et je m'imaginais en professeur. Donc, 27, 28 ans. Et j'ai que je. Bon, j'ai dû. Donc, 50 ans, ça me ferait 77 ans. Oui, bah, j'ai dû travailler 55 ans, moi. J'aurais été à 55 ans de boulot, donc je suis très au-dessus de la moyenne.
Ouais, bien sûr.
D'ailleurs, ça se voit, je suis une ruine, quoi. C'est effrayant, ça.
Je suis sûr que les autres de votre âge qui sont arrêtés de bosser il y a 20 ans, ils sont pas forcément beaucoup plus en forme.
Mais ils ont bien meilleur au golf.
Ah oui, sans doute. Mais ouais, du coup, en 2000, le temps effectif de carrière moyen, c'était 34 ans. Et en fait, déjà aujourd'hui, en 2025, il est passé de 34 à 38 ans. Donc en
Mais
fait,
c'est
c'est déjà
très bien.
une progression déjà absolument
Absolument énorme. Mais
énorme.
c'est très bien. C'est-à-dire, c'est ce que disent les Anglais, les dames anglaises. Vous savez que c'est avoir un mari à la retraite à la maison, c'est avoir plus de mari et moins d'argent.
Ouais.
Donc c'est quand même pas une combinaison gagnante, quoi.
Ouais.
Moi, j'ai vu un nombre de mes copains qui sont partis à la retraite et 2 ans après, ils étaient morts tellement ils s'emmerdaient.
Ouais.
C'est affreux.
Ouais, tout à fait. Tout à
C'est
fait.
inhumain.
Et ce qu'ils disent, Goldman Sachs, c'est qu'il faudrait que d'ici 2075, il faudrait qu'on passe à 40 ans de carrière effectif. Donc, quand on voit qu'on est déjà pour garantir le ratio
Voilà.
actif-inactif, c'est-à-dire rien du tout. Parce que déjà en 25 ans, on est passé de 34 à
Ça veut
38.
dire que vous bossez de 25 à 65, c'est quand même pas la fin du monde, hein.
Non, c'est pas du tout la fin du monde.
Vous avez encore quelques belles années devant vous, si vous vraiment vous voulez.
Ouais, tout à fait.
Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que, à condition de ne pas penser que la vieillesse est un naufrage, ce que disait De Gaulle, hein, si vous pensez que la vieillesse, finalement, bah, ça vous bougez moins vite. Hein, moi, si je veux, je peux plus jouer sur un terrain de rugby, je cours plus derrière une balle de tennis et tout, mais. Bon, c'est vrai que physiquement, il y a des trucs, mais dans la mesure où ça marche là-haut, il n'y a aucun problème, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc je ne trouve pas que travailler est une punition.
Ouais, tout à fait. Non, mais la vieillesse est de moins en moins un naufrage. Et la vieillesse, bah, en fait, c'est de plus en plus vieux. Hein, parce qu'avant, la vieillesse, c'était
C'est
60
de plus en
ans.
plus vieux. Et là aussi, il faut réfléchir à la notion de travail. Il y a deux mots pour le travail qui viennent du latin. Le premier, ça veut dire une machine, un truc qui vous torture, comme les esclaves, quoi. Et l'autre, c'est l'accomplissement qui est une notion chrétienne, l'accomplissement par le labeur. Ben, moins il y aura de gens pour lesquels le travail sera une torture, ce qui peut être remplacé par des machines, et plus il y aura de gens pour lesquels le travail est un accomplissement,
Ouais.
moins on aura de problèmes de retraite.
Ouais, tout à fait.
Ça me paraît évident. Donc tout ça, c'est encore une fois la fabrique des peurs. Ils nous foutent la peur. Ils ne gouvernent que par la peur. C'est-à-dire que les vieux, vous allez tous mourir de faim. Et puis les jeunes, vous allez tous mourir de chaud. Et puis. Lâchez-nous bien la grappe.
On va surtout mourir de froid, apparemment.
Ben, je sais pas. En tout cas, septembre a été le plus froid depuis 40 ans. Non, mais c'est en Paris.
Donc, ça s'est ressenti.
ça s'est ressenti. Donc, tout ça est très agaçant parce que. Il vous présente des espèces de problèmes structurels sur lesquels vous ne pouvez avoir aucun impact. Alors que si
Oui, c'est
vous
vrai.
dites, vous prendrez votre retraite quand vous voudrez, etc., à ce moment-là,
Tout à
vous
fait.
réfléchissez à votre vie. Donc c'est quand même très curieux, cette fois.
C'est très fréquent d'avoir des peurs comme ça.
Des peurs sur lesquelles vous ne pouvez rien faire.
Et puis 20 ans plus tard, on dit, ah bah finalement en fait non. Et puis vous avez décidé de juste bah,
De ne pas avoir d'enfant.
de vous empêcher biologiquement d'avoir des enfants. Et 20 ans plus tard, on vous dit que bah, peut-être vous auriez dû en avoir deux ou trois au lieu d'en avoir zéro.
Je vous fais une belle jambe.
Ouais.
si j'ose dire. Donc, cesser, comme dit ce bon Peterson, c'est commencer par ranger votre chambre. C'est-à-dire, occupez-vous
de vous occuper des problèmes du monde.
De sauver la planète, parce que sauver la planète, elle se démerdera toute seule. Genre, ouais.
Là-dessus, je note, alors, bien sûr, c'est une généralité, mais je note une espèce de... un discours un peu différent, voire opposé, entre personnalités plutôt à droite et plutôt à gauche. C'est-à-dire que les gens de gauche se posent la question de quel monde on va laisser à nos enfants.
Ils n'en font pas.
Oui. Alors, aux enfants des autres. Et les personnes de droite se posent surtout la question de quels enfants ils vont laisser au monde. Et je trouve que c'est une meilleure question.
Mais tout à fait. Il faut tout à fait quels enfants vous laissez au monde. Si vous laissez des petits brats, des petits voyous, ça ne va pas aider.
Non, c'est sûr.
Ou des gens qui ont peur de tout.
Oui. Oui, c'est un autre phénomène aussi, le manque de liberté des enfants aujourd'hui.
Moi je me souviens, enfin je ne vais pas raconter l'histoire de mon enfance, mais on montait aux arbres, on se passait la gueule dans les arbres et tout, et que je ne sois pas mort 10 fois, c'est miraculeux quand même.
Ouais. Il y a une infographie aussi que je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver, mais que j'ai trouvée absolument fascinante, sur 4 générations. Dans le même patelin. Je crois que c'était aux États-Unis ou au Royaume-Uni, je ne sais plus. Et en fait, on demandait à chaque génération où est-ce qu'ils avaient le droit d'aller quand ils étaient petits. L'autonomie qu'ils avaient à 8 ans. Et ceux qui avaient plus de 80 balais, ils avaient le droit d'aller jusqu'à 10 km. Ceux qui avaient 60 balais, ils avaient le droit d'aller à 3 km. Ceux qui avaient 40 ans, ils avaient le droit d'aller à 1 km. Et puis ceux qui étaient nés dans les dernières années, ils avaient le droit d'aller au bout de la rue, quoi.
Ben, je me souviens, Emmanuel, quand elle était petite, on habitait au bout de la rue de Courcelles à Paris. Et il fallait traverser le boulevard Haussmann pour aller à son école. Elle devait avoir 4 ans, elle allait à l'école, traverser le boulevard Haussmann comme une grande, quoi. On n'était pas trop inquiets. Hein. J'avais peur pour les voitures.
Ouais.
Donc voilà. Donc encore une fois, j'arrive toujours à la même chose. N'ayez pas peur.
Oui, effectivement. Voilà. Donc j'espère avoir un petit peu mitigé.
Non, mais c'est très bien parce que c'est un sujet important, très prégnant, et que il faut pas que ça se rejoigne la fabrique des peurs.
Ouais, tout à fait. Bah, j'espère qu'en tout cas on prend bien le contre-pied de ce point de vue-là. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que c'est un sujet assez important. Il fallait qu'on le traite un jour ou l'autre. Et puis je vous dis rendez-vous en fait sur l'Institut des Libertés pour les prochaines vidéos, mais aussi sur l'Université de l'Épargne pour ceux que ça intéresse. Le lien est toujours en description. Voilà, c'est une université que l'on fait avec moi, avec Charles, avec Emmanuel, et puis avec d'autres
pour
qui nous ont rejoint
à
récemment.
Avoir de quoi être libre. Voilà. C'est-à-dire, vous cherchez pas l'argent. Pour l'argent, vous cherchez l'argent pour devenir libre.
Ouais, pour une forme d'autonomie, de liberté, voilà, tout à fait. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Merci infiniment.